Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous, on refait le match. C'est la 30e de la saison 30, on salue les auditeurs du Gard, comme vous tous par ailleurs, qui êtes toujours aussi nombreux, et vous le savez, à nous écouter entre 18h30 et 20h. Émission 100% interactive à retrouver via l'application qui réunit tous les podcasts de RTL. Et l'émission est actuellement filmée sur RTL.fr notamment. Puis entre 20h et 23h, RTL Foot, avec toujours plus d'infos, de débats et la nouveauté réseaux sociaux depuis 3 semaines maintenant, le meilleur comme le pire des réseaux sociaux avec le décryptage qui est indispensable. Et un invité influenceur ce soir en studio à partir de 21h30, le compte Twitter Fédé de la Loose, et il sera en studio physiquement ici même à Neuilly. Avec moi ce soir Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Dominique Sévérac, le Parisien aujourd'hui en France, partenaire du service des sports. Bonsoir.
Bonsoir
Dominique.
Tout le monde.
Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe, bonsoir.
Bonsoir.
Et Gilles Verdez, le procureur d'On fait le match, bonsoir.
Bonsoir.
Alors messieurs, il y a une actualité de fou ce soir avec maintenant la nouveauté du samedi, vous le savez, la tchatch qui décoiffe. Alors elle mêlera le foot, les Bleus de Deschamps et bientôt 3 matchs avec le rugby, actuellement Angleterre-France. Gare à la bulle, gare à la bulle. Le score du rugby pour l'instant
17-13, Christian.
17-13, merci Jean-Michel Rascol. Gare à la bulle. Autre direct, Marseille actuellement face à Brest. Le score, Hugo Hamelin.
L'égalisation de Brest à l'instant, un partout entre Marseille et Brest.
Merci. Cette question, l'OM à la relance, mirage ou réalité? Lyon également, on parlera de Lyon, tenu en échec à Reims hier soir. Est-ce que c'est une équipe surcotée? Noël Le Graët, qui vient d'être réélu président de la fédération, est-ce la meilleure nouvelle possible pour le football français? Ronaldo et Messi aux oubliettes avec Mbappé, le Norvégien à Haaland, est-on certain que la relève est assurée? Et puis avant 20h, vous le savez, les tirs au but, exclusivité d'On fait le match, une séquence où dans ce studio, les faibles sont éliminés. Vous écoutez RTL, yeah. Vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Quelle actualité, messieurs. Alors, dans l'ordre, puisque c'est une émission de football quand même, oui. Marseille-Brest, avec l'égalisation finistérienne, Hugo Hamelin.
Exactement, hein, des Brestois qui étaient restés cohérents, collectifs, depuis l'ouverture du score de Milik dans les arrêts de jeu de la première période, un but qui s'est fait quasiment tout seul, l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille, après un rapide 1-2 avec Dimitri Payet. Et donc là, c'est sur un coup franc tiré second poteau que Lilian Brassier vient placer sa tête pour tromper Steve Mandanda, le défenseur central, un petit peu en cause d'ailleurs sur l'ouverture du score. C'est lui qui était au marquage d'Arkadiusz Milik et qui là vient se faire justice lui-même, remettre les pendules à l'heure pour ce score de parité, donc alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure de cette partie, un partout donc entre Marseille et Brest.
On va revenir évidemment à partir de 18h45-50 et jusqu'à 19h15 sur l'Olympique de Marseille. On va débriefer du match et on reviendra avec nos amis de Doxa et de Winamax évidemment sur les perspectives à venir pour l'Olympique de Marseille. Autre direct, et ça va nous permettre de nous introduire dans le premier débat, la tchatch qui décoiffe. C'est une nouveauté, hein, pour tous ceux qui découvrent cette nouveauté, histoire de se mettre en jambes, de s'échauffer afin d'éviter les blessures. Angleterre-France, Jean-Michel Rascol.
C'est la mi-temps, mais quel match, Christian, entre Anglais et Français à Twickenham. Ce sont les Français qui ont tiré les premiers en marquant un essai grâce à Antoine Dupont dès la première minute. Les Anglais ont répliqué grâce à leur ailier Antoine Watson, et puis le match s'est emballé, des actions de part et d'autre, et tout ça pour aboutir à un deuxième essai français marqué par Damien Penaud après une merveille de passe adressée par Mathieu Jalibert, qui lui-même a transformé ce deuxième essai, ce qui permet à la France de mener 17-13. Mais le crunch tient toutes ses promesses.
Antenne ouverte, Jean-Michel, pour l'évolution du score. Antenne ouverte également pour le débat qui va venir, au cas où nous dirions trop de bêtises, sur Fabien Galthié notamment. D'autres résultats en Ligue 2, Auxerre PFC, c'était cet après-midi.
Il y en a à dire.
Ça vous intéresse, Auxerre PFC?
Si, Fabien Galthié, ça m'intéresse beaucoup.
Vous savez que dans les tirs au but, il y aura la fameuse question Ligue 2.
Hein. Absolument.
0-0, ça c'est...
On l'appelle la question Verdez.
Et en Ligue 1, mais là on débriefera pas du match le 13h. Hein. Saint-Etienne qui est allé gagner à Angers par 1-0. Bravo aux Stéphanois. Mais alors, match, c'est Cazeri qui a marqué, match quand même assez inintéressant. On est d'accord.
Ça arrive.
Ça peut arriver.
C'est pas facile,
pour ça que je dis que la Ligue 2, c'est de mieux en mieux, et que la Ligue 1,
parfois, c'est une obsession sur cette Ligue 2.
La Ligue 1, c'est moins bien, la Ligue 2, c'est de mieux en mieux.
Les par le bas.
La tchatch qui décoiffe. Alors, on connaît l'actualité Galthié, la bulle qui a explosé, les responsabilités de Fabien Galthié. Arrive une séquence importante avec 3 matchs, l'Ukraine pour Didier Deschamps, le Kazakhstan et la Bosnie. Donc, attention, Didier Deschamps et la Fédération française de football à ne pas percer la bulle. Mais franchement, les gars, si on avait eu le même scénario avec le football, ça aurait été scandale national. Alors que là, c'est passé comme c'est passé crème, quoi.
Vous auriez eu des interventions à l'Assemblée nationale pour,
Dominique Sévrac,
pour demander la démission de Fabien Galthié, ce qui arriverait pour
de Deschamps.
Là, pour Deschamps, oui.
Ah oui.
Si c'est arrivé pour le football.
Ah bah là, on réclame la démission de Deschamps.
Il y aurait une question à la volée à Emmanuel Macron lors d'un déplacement. On lui dirait Didier Deschamps a brisé la bulle, il semblerait, de Clairefontaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aurait une réaction nationale, un débat national. C'est le rugby, c'est les fameuses valeurs fake de l'Ovalie où on nous fait croire que c'est un sport avec des valeurs alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc voilà, donc c'est pas assez crème.
Je rappelle que Jean-Michel Rascol, évidemment, qui suit Angleterre-France, peut intervenir.
J'apprécie
à tout le monde. Jean-Michel.
J'apprécie, mais tout n'est pas faux, malheureusement. Effectivement, on ne peut pas édicter des règles strictes de valeurs et dresser comme ça une ligne directrice sans pour autant l'observer soi-même. Mm-hmm. Et c'est malheureusement ce qui a dû se passer avec Fabien Galthié.
Il y aura une bulle, il y a un protocole évidemment pour l'équipe de France, Philippe Sanfourche.
Alors là, je pense que Jean-Michel pourra également en témoigner puisqu'on en a longuement parlé lorsque c'est arrivé. Déjà la notion de bulle, elle parle aux gens parce qu'effectivement c'est une image intéressante, mais en soi c'est absolument inapplicable. Qu'est-ce qu'une bulle? C'est-à-dire c'est par définition une sphère dans laquelle on ne peut entrer ni sortir, et on ne peut pas vivre pendant 15 jours ou 3 semaines en totale autarcie. Donc qu'il y ait des entrées, des sorties, par définition, quel que soit le protocole, la bulle, elle explose. Après,
ça dépend,
elle peut exploser de différentes manières. C'est-à-dire qu'effectivement...
Attends, c'est pas ce que nous a dit Bernard Laporte ce matin. La deuxième bulle du rugby, ils seront tous à l'intérieur de la bulle et lui-même ne pourra pas s'y introduire.
Là, on en revient à ce que disait Dominique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer le foot et le rugby parce qu'il y a des termes et il y a finalement une forme de flou artistique qu'on peut entretenir dans le rugby qui ne serait pas possible 5 minutes dans le foot.
Qu'est-ce que tu entends par flou artistique?
Je pense que si vous voyez Pogba et Antoine Griezmann dans les rues de Rome la veille ou la veille d'un match, non, ça n'existe pas, même si c'est pour aller manger des gaufres, vous voyez.
Votre chance, c'est qu'il n'y a pas de gaufres au Kazakhstan,
impossible, inacceptable et inaccepté. Donc c'est impensable.
Le Grec prendra l'avion avec l'équipe de France, s'il doit aller au Kazakhstan et en Bosnie, prendra le même avion, il n'ira pas sur une ligne commerciale avec au milieu des gens.
Donc là, à partir de Clairefontaine, pour préparer l'Ukraine, ça se joue au Stade de France, la bulle se crée. Ensuite, le Kazakhstan, le dimanche suivant, à 15h, au Kazakhstan, dans un avion spécialement affrété par l'équipe de France, la bulle est respectée. On imagine que dans l'hôtel au Kazakhstan, il n'y aura pas d'autres visiteurs.
En tout cas, ils auront un otage privatisé.
Et ensuite, le Kazakhstan, j'arrive, Gilles Verdez, qui est très impatient d'intervenir. Et ensuite, direction la Bosnie, la bulle de bout en bout également pour jouer la Bosnie.
Gilles Verdez. Tout joueur qui est révélé positif, parce qu'ils sont testés PCR très souvent, tout joueur qui est positif, il sort de
la bulle.
Il s'en va.
Je trouve que c'est un peu facile de la part de mes collègues de s'attaquer au rugby comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. D'abord, il y a les hommes. Ok, Galthié, on sait très bien qu'il est ingérable, il sort quand il veut, il va où il veut. Il fait ce qu'il veut.
Il n'a pas toujours été sélectionneur.
Non, mais ailleurs, il faisait pareil. Il fait ce qu'il veut, Galthié. Il est ingérable. Vous le savez, vous prenez Galthié, il est ingérable. Après, certains joueurs du rugby sont indisciplinés. Ça, c'est les hommes. Les hommes ont fait n'importe quoi. Mais là où c'est fort de la part du rugby, et je trouve qu'il faut le reconnaître, c'est que l'institution rugby est restée de marbre. Il n'y a eu aucune fissure au sein de l'institution rugby, de Laporte à Galthié, peut-être aux joueurs en interne, mais rien n'est sorti.
Vous trouvez beau que l'institution...
Je vais finir.
Non, mais j'essaye de comprendre.
Laissez-moi finir, je vais vous expliquer.
Vous trouvez beau que l'institution protège les hommes qui font n'importe quoi?
Dans 20 secondes, parce que je ne fais jamais long, vous aurez tout compris, j'espère.
Ce que je veux dire, c'est que...
Ou alors, les amis journalistes de rugby qui suivent le rugby sont complices, ce que je ne crois pas du tout.
Et certainement pas Jean-Michel Rascol.
Ce que je ne crois pas du tout, à l'image de Jean-Michel.
C'est pour ça que tu le dis. Tu crois pas, c'est pour ça que tu le dis.
On voit les articles de l'équipe aussi qui sont durs contre l'institution. Mais c'est qu'il y a une colonne vertébrale formidable et dans le rugby, rien ne dépasse. À part quelques opposants abscons qui sont virés à toutes les élections, rien ne dépasse. Dans le foot, il y aurait eu des clans, tout aurait explosé, etc.
Tu trouves donc
c'est
génial,
la solidité de. Moi, je trouve ça admirable.
Génial que donc le système rugbystique.
Pourquoi
cautionne. Tu commences par dire ils ont fait n'importe quoi et après tu
les hommes. Mais l'institution est là
et donc
la
elle a protégé le n'importe quoi. C'est ça que tu trouves beau.
Non,
tu trouves beau qu'une institution, par exemple l'armée déconnerait et l'armée ferait bloc derrière les gens qui ont déconné.
Elle a protégé la passion populaire parce que il y a des millions de gens qui regardent Angleterre-France et très peu vont dire oui mais alors ils sont sortis l'autre jour, etc. Ouais. Et on vibre tous à l'exploit de ce match formidable. Donc moi je dis bravo au rugby.
Tu viens défendre des gens. Mais
ce qui est génial, Gilles, toi qui es un homme de valeur, je suis quand même étonné que tu ne sois pas surpris, choqué et scandalisé par le fait que Fabien Galthié dise dans un premier temps « Je n'ai jamais percé la bulle, c'est un mensonge, c'est faux ».
Mais on le connaît, Galthié, dit, il dit n'importe
et trois
quoi.
Jours après, et trois jours après, une semaine après, il reconnaît quand même l'inverse. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça
rien ne s'est fissuré.
Ça ne choque pas.
Boum, colonne vertébrale, bah c'est normal, bloc de béton.
Ils sont tous liés.
Je les félicite.
Tu trouves génial qu'on protège les mensonges, qu'on ne respecte pas la règle. Tu trouves génial qu'une institution se protège face aux mensonges et aux dérives. C'est honteux.
Elle est restée cohérente. Moi j'aime les institutions cohérentes.
Le plus honteux, c'est pas.
Arrêtez, ils ont été mangés 4 gaufres à Rome. Arrêtez. Plus vous aussi, vous avez mangé des gaufres à Rome.
Le plus honteux, c'est pas la fédération qui protège Fabien Galthié, etc. Bon, ils sont entre eux, ils sont copains depuis toujours. Allez, on y va, pas de problème. Mais c'est le ministère, c'est l'État. C'est ça le plus honteux. Parce que la Fédération française de rugby avait passé un accord avec l'État pour que ces matchs du tournoi puissent se disputer. Donc il y avait quand même des engagements vis-à-vis de l'État. Alors, franchement, on peut le prendre avec le second degré, rien n'est grave fondamentalement. Mais enfin là, c'est quand même pas rien, vu la crise sanitaire que nous traversons.
Non mais,
je trouve ça grave, et je trouve scandaleux que le gouvernement français, qui demande des efforts aux Français depuis un an, protège l'institution du rugby, protège Fabien Galthié, tout ça parce qu'ils veulent gagner un tournoi. Parce que Fabien Galthié, je vous dis juste une chose, et vous le savez tous, il a de la chance de ne pas être anglais, il a de la chance d'être français. Parce que si tout sortait, il aurait démissionné dans la minute.
Bon. Je crois savoir quand même que la ministre des Sports est très très énervée.
Ouais, elle est énervée, mais elle s'est tue.
Parce qu'elle sait.
Et on croit même savoir qu'il y a un peu de friture sur la langue entre Jean-Michel Blanquer, qui est
sur la ligne.
Le friture sur la ligne, j'ai dit.
Moi, sur la langue, ça passe
sur
aussi.
Sur la langue, j'ai dit. Ah, c'est pas grave. Sur la langue aussi, d'ailleurs.
Ouais, oui, parce la fourchette. C'est
pas la friture. Elle a surtout retenu ce qu'elle avait envie de dire ou ce qu'elle aurait voulu dire.
Voilà, mais après, Sébastien, c'est pas grave. Effectivement, ça peut être grave.
T'as bien compris que je disais pas ça.
Non, mais ça peut être grave si on perce la bulle et qu'un joueur ramène le Covid chez lui à ses grands-parents. À ses grands-parents qui finissent aux urgences. Mmh. C'est là où c'est pas grave, mais c'est un peu grave.
Allez, je vous interromps, mais vous avez vu le principe de cette entrée en matière, c'est de nous mettre en condition sur un débat qui est un débat parfois léger, il le sera, qui est un débat important néanmoins.
Oui, surtout qu'on apprend que Gilles protège les mensonges, donc c'est important.
Et pour ce qui compte, Gilles, c'est une.
Laissez-les s'échauffer, visiblement ils sont fatigués, ils vont se mettre en jambes.
Non, mais il y a un droit d'exemplarité quand même global. Il ne faut pas oublier que tous les amateurs, quels que soient les sports en ce moment, sont à l'arrêt. Les professionnels ont la chance, certes, de pouvoir faire leur métier, mais aussi de pouvoir vivre leur passion, de jouer, de défendre les couleurs. Dans ces cas-là, il faut quand même, à minima, respecter les protocoles qui ont été édictés au départ.
Allez, on suit le rugby, c'est la mi-temps, Jean-Michel Rascol en Angleterre, on est d'accord, Angleterre-France.
Effectivement, les Anglais vont donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps.
Et au Vélodrome, on est quoi, 5-6 minutes de la fin du match.
Voilà, exactement, 5 minutes 30 avant la fin du temps réglementaire.
La pub, on fait le match, 18h43, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, derrière la publicité, justement, Marseille à la relance, mirage ou réalité. A tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
18h45, on refait le match en compagnie de Philippe Sanfourche, Dominique Séverac, Gilles Verdez et Sébastien Tarago. Les deux directs du soir et le rugby avec la seconde période Angleterre-France, Jean-Michel Rascol.
Avec un score pour l'instant inchangé, 17-13 pour l'équipe de France, mais ce sont les Anglais qui rentrent dans cette deuxième mi-temps le plus fort dans la mesure où ils campent dans les 22 mètres de cette équipe de France qui est parfaitement bien organisée en défense, qui tient le coup. Mais il va falloir quand même arriver à leur chipper le ballon pour créer quelque chose. Sans ça, on va s'exposer un bon moment. Et donc, les Anglais, pour l'instant, en ce début de deuxième période, sont dans le camp français. Mais l'arbitre, Monsieur Brace, un Irlandais qui n'avait pas une très bonne réputation du côté de l'équipe de France, puisque lorsqu'il avait arbitré la finale de la Coupe des Nations, il avait un petit peu orienté la victoire en faveur des Anglais dans les prolongations. Eh bien, Monsieur Brace vient de redonner la balle aux Français dans leurs 22 mètres, ce qui va leur permettre, grâce à Mathieu Jalibert, de se dégager. On rappelle le score, 17-13.
Merci Gilles. Verdez, on n'avait pas terminé sur la bulle. Hein, on...
Christian a avancé.
Oh, le but pour l'Olympique de Marseille. Magnifique but pour l'Olympique de Marseille sur cette nouvelle passe décisive de Luis Enrique. Il va envoyer le ballon dans les tribunes carrément. Florian Thauvin, c'est lui qui vient couper ce centre à l'entrée des 5m50, un ballon catapulté sous la barre transversale de l'Arseneur, et Marseille à la 88e minute qui est en train de forcer son destin et d'aller chercher cette victoire face au Stade Brestois qui mettait du temps à se dessiner.
Faut-il vraiment reparler de la bulle? Est-ce qu'on n'attaque pas l'Olympique de Marseille?
Si, Marseille. Bien sûr, il n'y a pas de bulle de toute façon. Marseille.
Marseille à la relance. Mirage ou réalité? C'est la question que je vous pose ce soir et je vous donnerai les résultats après 19h du sondage concernant l'Olympique de Marseille établi cette semaine par nos amis de Odoxa avec Winamax. Mirage ou réalité?
Mais non, mais c'est une réalité là. Il y a des destins qui basculent comme ça. Ça n'arrive pas par hasard. Dans le jeu, franchement, aujourd'hui, c'était mauvais.
Il n'y a rien.
Oui, c'était mauvais. Mais quand je vois les images que je viens de voir, elles ont un sens. C'est tout. Ça bascule au dernier moment. Thauvin, même s'il est un peu démago,
deuxième fois.
Il finit avec son entraîneur entre ses mains. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu un changement. Il y a eu beaucoup d'attentes autour de Sampaoli. Parfois, c'est un peu de com'. Parfois, c'est un peu de... Oui, mais c'est un peu du n'importe quoi, sauf que ça a du sens sur le terrain, oui, enfin, et ça se retrouve sur le terrain.
Dimanche soir, on l'a pas vu sur le terrain.
Mais oui, mais il gagne les matchs.
Ouais, bah, il gagne pas les matchs.
Sur le terrain, il n'était pas en Coupe de France.
Comment?
Il a pas coaché en Coupe de France.
Non, mais d'accord, enfin, je veux dire.
Mais oui, mais Sampaoli, c'est son deuxième match. Moi, je dis pas que c'est un entraîneur de génie. J'avais beaucoup de doutes, mais la réalité.
Ils se sont permis le luxe de se faire éliminer par.
Mais il était pas là, Sampaoli.
D'accord, enfin, il était là, il était devant sa télévision.
Non, mais vous parlez de Sampaoli.
C'est bien l'illustration du fait que physiquement, il impulse quelque chose. Il y a une électricité qui est là grâce.
Donc sur la durée, vous êtes sur
la durée. C'est autre chose.
Est-ce qu'on parle de la durée? Non, de toute façon, tout est éphémère en football. Les bulles, comme les états de grâce des entraîneurs.
Bon, là, c'est une réalité, mais.
Ce qui est certain, c'est que marquer comme ça en fin de match pour les deux premières rencontres, c'est pas un hasard. Même si c'est pas encore flamboyant dans les intentions, moi, j'ai noté quand même que sur la première demi-heure de jeu, on voit un Olympique de Marseille qui presse haut, qui essaye de. Enfin, qui montre beaucoup plus de choses dans l'engagement, dans l'investissement, dans l'intensité que ce qu'on avait ces derniers temps. Alors c'est certainement très injuste parce que je pense que le pauvre Nasser Larguet ou ce que demandait AVB auparavant, c'était très probablement dans des styles différents exactement la même chose, sauf que là ils le font alors qu'avant ils le faisaient pas. C'est ça la différence.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de changement, pardon Gilles, dans l'engagement. Après moi j'y crois pas. Il y a eu un match en retard et 10 journées, ça va faire 11 matchs. Après il y aura la trêve d'été. Moi, je crois absolument pas. Cette équipe-là, elle est mauvaise. Il va pas la transformer tout d'un coup en bonne équipe. Si jamais il y a un effet, il va vite s'estomper avec l'été. Donc, on verra ça l'année prochaine.
Non, il faut voir plus haut que l'entraîneur, messieurs. C'est pas juste le changement en Sampaoli. C'est une révolution, ce qui s'est passé au club. Et on est en train de repartir quasiment d'une page blanche, puisque le grand ménage continue. Hugo Ouvrard, qui était le directeur du business de l'OM, a été limogé. Thierry Aldebert également cette semaine. C'était deux très
Où il a démissionné en raison des menaces vis-à-vis de ses proches.
C'est comme Villas-Boas. Est-ce que Villas-Boas a démissionné ou limogé?
Ah non, mais c'est différent.
On est sûr que Jacques-Henri Hérault n'est plus dans les parages?
N'est plus dans les parages. Il fait toujours partie de l'Olympique de Marseille. Il est au.
Oui, donc le grand ménage, il attend.
Au directeur de l'Olympique de Marseille. Non, c'est un énorme changement. Tous les rênes sont confiés à Pablo Longoria, qui est en train de remettre tout à plat. Et McCourt donc confie les rênes à un expert du trader, un expert des transferts, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et c'est en ça que l'Olympique de Marseille va changer.
Gilles Verdez.
Alors, pour revenir à l'effet Sampaoli, Christian, vous disiez tout à l'heure, on n'a rien vu dans le jeu. Mais vous ne verrez rien dans le jeu. Ça avait l'air de vous étonner. Ce qui m'étonne, moi. Mais vous ne verrez rien du tout dans le jeu. Qu'est-ce que vous voulez voir dans le jeu avec des joueurs comme ça? Sampaoli, lui, c'est des latéraux avec des espaces libérés. Mais les latéraux de Marseille, ils sont incapables de monter, de faire descendre. Donc il n'y aura jamais rien dans le jeu. En revanche, la révolution Sampaoli, ce sera d'inculquer une grinta phénoménale. Il va faire que l'envie de gagner, la motivation, comme disait Sébastien, les visages des joueurs s'éclairent. Thauvin, qui était devenu tricard, il va rester, il va re-signer triomphalement, vous allez voir. Tout va changer dans la mentalité de Marseille. Et comme la Ligue 1 est si faible, quand vous voulez gagner,
nouveau but, Mickaël Cuisance qui va venir clore la marque alors qu'on attend la dernière minute des arrêts de jeu. Le centre encore une nouvelle fois du Brésilien Luis Enrique qui est en train de vivre ses meilleurs moments à l'OM depuis l'arrivée de Sampaoli. Deuxième poteau pour la reprise immédiate de Cuisance qui avait déjà marqué contre Rennes en fin de match. Le joueur en provenance du Bayern de Munich, ça fait 3-1. pour l'Olympique de Marseille face à Brest. Marseille qui appuie sur l'accélérateur dans les toutes dernières minutes du match.
Le foot, c'est des énergies.
Et depuis une semaine.
Mais rien que ça, depuis 10 minutes.
Non, mais Sébastien, arrête de faire des grands.
Mais non,
on peut avoir un point de vue un peu différent du tien quand même. Il a démarré son premier entraînement quand, Sampaoli? Non, mais je te pose la question.
Quand est-ce qu'il a démarré son.
Mais on parle exactement de la même chose.
Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez. Bah non, mais je vous réponds. Allez-y.
J'ai rien dit.
Mais non, bah allez-y.
Non, vas-y, on va voir ce que tu veux.
On n'est pas en train de parler de jeu. C'est comme ça, il y a des énergies. Les joueurs, ils sont aussi pris par cette espèce de fascination pour le personnage, parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils lisent les journaux, parce qu'ils regardent la télévision, et il y a l'entraîneur qui arrive, et d'un coup, il y a une forme d'énergie nouvelle. C'est comme ça, c'est l'histoire du foot.
Donc là, est-ce que je peux intervenir? Est-ce que, bien que Sampaoli n'étant pas sur le banc, effectivement, dimanche soir, les joueurs ne se soient pas dit à un moment donné, attention, hein, nous on démarre pied au plancher lundi à 8h du matin, mais dimanche jusqu'à 23h.
Mais c'est Nasser Larguet qui a fait la compo d'équipe, par exemple. Mais oui, mais par exemple, on parlait du jeu. Il n'y a pas d'amélioration dans la fluidité, c'est pas beau, c'est pas. Ok.
En revanche,
il y a des nouvelles choses très claires au niveau tactique. Bah, donc, entre le match. L'élimination en Coupe de France et les deux matchs gagnés, ce n'est plus du tout la même équipe, ne serait-ce que sur le plan tactique.
Je t'entends.
Pénalité pour Mathieu Jalibert qui peut donner 3 points supplémentaires à l'équipe de France. Une position de hors-jeu de la défense anglaise. Il tape pied droit, le ballon va passer entre les poteaux. Et donc les Français mènent désormais 20-13 après 49 minutes de jeu à Twickenham.
Page de publicité sans doute. Hugo Hamelin en solde le résultat final à Marseille.
C'est terminé 3-1. Victoire de l'Olympique de Marseille. Seconde d'affilée. Marseille qui est 5e. Provisoirement au classement de la Ligue 1.
Merci Hugo, décryptage, réaction évidemment à partir de 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Xavier Demer, Quentin Asselin et Raymond Abou. La publicité, et derrière la publicité on continuera de parler de l'Olympique de Marseille, de ses perspectives et après 19h du sondage et des Français sans doute un peu plus lucides que Sébastien Tarago à propos de l'avenir de l'Olympique de Marseille. À tout de suite.
On refait le match sur RTL. Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
La suite n'est pas la fin, on refait le match. Toujours avec Philippe Sanfourche, Sébastien Tarago, Gilles Verdez et Dominique Sévrac. Le rugby également, l'équipe de France mène en Angleterre face à, aux Anglais, Twickenham, le score 20-13. On y reviendra dans un instant. Il nous reste 3 minutes pour parler de ce match de ce soir, gagné donc par l'Olympique de Marseille sur le score de 3-1. On ne s'enflamme pas, on est d'accord, quand on voit jouer les joueurs marseillais, mais tout est dans la tête grâce à l'arrivée de Sampaoli. C'est la conclusion qu'il faut en tirer.
Ah, je ne sais pas, c'est pas moi qui tire les conclusions, mais.
Mais c'est la question que je vous pose.
Mais oui, moi. Pour moi, c'est comme ça. Le mental dans le sport de haut niveau est capital. Et les énergies changent comme ça, très rapidement. Alors après, il faut du fond de jeu pour espérer vraiment progresser. L'Olympique de Marseille, il ne pourra pas espérer l'une des 3 premières places la saison prochaine s'il ne s'appuie que sur l'énergie.
Il faudra autre chose. Une thématique chère à Mauricio Pochettino qui parle des énergies universelles.
Je ne l'ai pas vu avec Mauricio Pochettino.
Lui, il croit beaucoup à ça, aux énergies universelles qui, paraît-il, circule à l'intérieur de la vestiaire.
Ah ouais, non, mais là, moi, j'étais pas dans un truc aussi ésotérique, là. Avec Florian Thauvin, je pense qu'il faut être plus basique, par exemple.
C'est déjà un des ressorts du sport de haut niveau, mais il y a aussi, on va dire, des endroits, des moments, des clubs sur lesquels ça a plus d'incidence. Je pense que cet effet-là, électrique, cette température, il y a plus de chances que ça fonctionne quand on s'appelle l'Olympique de Marseille que quand on s'appelle Sochaux ou Lille. C'est-à-dire que, en fait, Marseille est fait de cela. Et c'est la raison pour laquelle Sampaoli, avant de se pencher sur son schéma de jeu, sur quoi que ce soit, moi, j'avais l'air de caricaturer quand je disais il est argentin, il a des tatouages, machin. Ben oui, mais déjà, il remplit les cases d'entrée de jeu pour parler aux Marseillais, pour parler à l'environnement marseillais et pour comprendre que derrière, ils vont le suivre. Ça durera pas, mais en tout cas, on voit bien que le début fonctionne.
Le ressort psychologique.
Oui, on verra. Ouais. Ça fait 2 matchs, une semaine. On verra dans 10 journées où on sera à Marseille. On verra la saison prochaine sur quel projet ils partent.
On va en parler d'ailleurs.
Mais ça, c'est autre chose. Moi, je vous trouve, c'est bien de s'emballer.
Mais pas
c'est...
du tout.
Non, mais c'est bien
les
de s'emballer.
Les joueurs de l'OM, les Anglais.
Et la force de Marseille, à l'exception d'un seul match, on arrive Jean-Michel, c'est qu'il y a un calendrier relativement facile. À part un rendez-vous de mémoire, ensuite il faudrait voir ça, mais c'est aussi peut-être un avantage pour
quand
la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Gilles Verdez et le rugby.
Mais en fait, aujourd'hui, il y a deux types d'entraîneurs. Il y a les tacticiens froids et il y a les entraîneurs qui catalysent les énergies, comme Klopp et Bielsa dans sa première partie de saison à Marseille. Il y a des évolutions tactiques, mais il y a surtout dans la tête des joueurs une révolution qui se fait. Et Sampaoli, c'est pareil. C'est pas un génie tactique qui va venir à Marseille. C'est un génie de la mystique.
On parlera de l'Olympique de Marseille derrière les informations et son avenir, derrière les informations de 19h avec Odoxa et Winamax. Le rugby, rapidement Jean-Michel Rascol.
Une faute en touche de Paul Willems a permis à l'Angleterre de bénéficier d'une pénalité transformée par Farrell, 20-16 désormais pour l'équipe de France après 55 minutes de jeu.
La publicité, les informations de 19h et la suite, on refait le match entre 19h et 20h. A tout de suite.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match avec Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, Gilles Verdez, le procureur, Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, Philippe Sanfour, chef de la rubrique football de RTL, que de fines fleurs qui d'une voix et d'une seule nous annonce un Olympique de Marseille retrouvé et dans le jeu.
Pas du tout,
non. Non,
mais,
oh la
caricature. Non mais là vous allez non pas contre le sens de l'histoire mais contre le sens du match. Il gagne avec un retournement de situation.
Je suis d'accord.
Non, mais il y avait de l'ironie dans votre voix,
non,
je vous connais.
Ah,
il y a déjà un effet Sampaoli.
Mais j'ai même pas donné le score à nos auditeurs. Ah,
excusez-moi.
Une victoire
large
et facile, 3-1 face au stade de Brest, 29. 3-1 inscrits par Milik.
Dites-nous la vérité, vous aviez préparé une émission avec la défaite de l'Olympique
de
Marseille.
Non, pas du tout. Thauvin et Cuisance. Non, ce qui m'a, moi, tué le moral depuis maintenant une semaine, c'est l'élimination en Coupe de France. Et quand j'ai commencé à voir les premiers messages concernant la renaissance de l'Olympique de Marseille à l'issue d'une victoire à l'arrache et dans les toutes dernières secondes face au Stade Rennais, je me suis dit ça y est, c'est reparti pour un tour et on commence à mettre la charrue avant les bœufs. Et là, bon, oui, c'est une victoire un peu plus convaincante. Vous regarderez les buts quand même.
Non, Christian.
Ils sont beaux.
Luis Enrique qui était tricard pendant des mois et demi, il arrive, fait trois passes décisives, je crois.
Deuxième passe décisive.
Écoutez, moi, je vous fais confiance.
Et le premier but de Milik ne demande rien à personne et démontre que ce garçon est certainement un des meilleurs attaquants de Ligue 1.
Je vous rappelle que je ne crois en rien dans cet OM. Je ne crois surtout pas en projet de M. McCourt, donc je demande à voir encore.
On va revenir sur le projet. Je vous fais confiance. Je suis là pour poser des questions. Je vous fais confiance.
C'est incroyable.
Manière modérée quand même, une confiance modérée.
Confiance tout de même. On va prendre d'ailleurs la température sur les réseaux sociaux, car vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un flot de messages sur le compte Twitter @RTLFoot et qui sont relayés par Baptiste Durieux, qu'on n'a même pas salué. Ah. Bonsoir Baptiste.
C'est une faute très grave. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bonsoir, beaucoup de messages, effectivement. Vous n'allez pas être content parce que ça s'emballe beaucoup sur les réseaux sociaux. Ludovic nous dit pas de révolution, certes, pour l'instant, mais un grand attaquant, un président qui aime et qui connaît le football, plus de salariés supporters du PSG au sein du club. Un entraîneur entraînant, c'est pas le Bayern, mais l'OM est quand même sur la bonne voie, disons les choses telles qu'elles sont. Message de Fred aussi. Merci messieurs, tout n'est pas parfait, mais on voit enfin du football et de la communion. Samuel aussi, je pense à cette fin de match dans un stade Vélodrome plein de supporters et je suis triste. Mais à côté de ça, très heureux de retrouver un Marseille qui a du caractère. Message de Florian également. Donc on voit du football avec Marseille en moins de 2 semaines avec Sampaoli. Vous savez, c'est le mec tatoué qui crie beaucoup, mais c'est aussi un bon entraîneur, figurez-vous. Et message de Franck, départ de Jacques-Henri Hérault et de Hugo Ouvrard et toute sa fraude au clic. Bref, moins de digital et plus de football. Et on retrouve l'Olympique de Marseille qu'on aime.
Réjouissons-nous bien évidemment. 19h08, l'avenir de l'Olympique de Marseille, étudié, décortiqué par nos amis de Doxa. On salue l'arrivée sur cette antenne d'Émile Leclerc, directeur d'études pour Odoxa. Bonsoir Émile.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Le baromètre Odoxa, RTL, Winamax, riche d'enseignements, et là vous allez pouvoir réagir également, mais qui met en perspective désormais la politique mise en place par la nouvelle équipe dirigeante, et non pas pour cette deuxième partie de saison bien évidemment, mais pour la saison ou les saisons prochaines. On va commencer, Émile, par l'ambition européenne étalée par Frank McCourt, l'actionnaire américain du club propriétaire de l'Olympique de Marseille. Et là, les deux tiers des Français qualifient cette ambition européenne de totalement irréaliste.
Oui, bah alors Franck Mincourt, quand il est arrivé il y a 5 ans, avait déjà promis aux supporters une ambition, une vraie ambition européenne, voire même gagner la Ligue des Champions. On a vu les résultats depuis. Il a réaffirmé encore récemment cette idée et cette ambition. Et les Français et les amateurs de football, au vu des résultats de ces dernières années, ont bien du mal à y croire. Hein. 68% des Français et 66% des amateurs de football nous disent que c'est irréaliste. Alors attention à Franck Mincourt, hein, à pas faire de promesses et à créer des attentes sur ce sujet-là, d'autant que on peut le dire, hein, aujourd'hui, les supporters de l'OM sont quand même échaudés par les derniers événements. Donc il y a un vrai hiatus entre la promesse et peut-être ce qui est capable de faire aujourd'hui l'OM, voire dans les mois ou les années à venir.
Là-dessus, un commentaire, messieurs, ça dépendra évidemment des moyens mis à la disposition désormais de Sampaoli pour la saison prochaine.
Il n'y a pas de visibilité pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité ni de lisibilité dans le projet. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est du dégagisme. Le président a dégagé, Ouvrard a dégagé, on change l'entraîneur.
Chef de la sécurité.
Voilà, tout change. Mais où est la cohérence? Où est la ligne directrice? On ne la connaît pas. Quels sont les moyens qui sont développés? Pour l'instant, ça donne surtout le sentiment que McCourt est venu parce qu'il y avait le feu. Il est venu éteindre le feu. Il a fait les changements qui étaient demandés. Et il édicte à nouveau un discours teinté d'ambition qui ne peut que plaire aux Marseillais. Mais concrètement parlant, on n'a rien. On a plutôt le sentiment, et là, ce n'est pas des infos ni quoi que ce soit, qu'il est en train de jouer la montre pour un éventuel... une éventuelle cession du club à échéance, alors ça j'en sais rien, 6 mois, 1 an, 2 ans.
On va venir sur l'aventure du club.
Voilà, on sait qu'il n'y a aucune ligne de conduite, Christian. Il y a eu Rudy Garcia, André Villas-Boas, Nasser Larguet, Jorge Sampaoli. Il est arrivé en 2016, ça fait déjà 4 entraîneurs en moins de 5 ans. On voit bien qu'il navigue à vue, on voit bien qu'il n'a pas de moyens, on voit bien que les moyens qu'il avait, il les a dilapidés dans le salaire de Payet, dans la prorogation de Payet, dans le retour de Mandanda, dans Trotman, dans des choix. Il s'est laissé abuser par les choix sportifs de Rudy Garcia, qui, à mon avis, comme étage de la fusée, comme premier étage de la fusée, a saccagé le projet, qui était déjà pas brillant. Donc ça ne peut pas marcher, à moins d'avoir tout d'un coup de mettre 500, 700, 800 millions d'euros.
D'accord sur ce.
Ce que je trouve dangereux dans ce qui a été dans la stratégie récente de Franck McCourt, c'est que très clairement, il a dit aux supporters : je vous donne raison, tout ce que vous voulez, je le fais. Et alors, ça donne du crédit quand même sur l'idée, à l'idée qu'il n'est pas là pour très longtemps. Parce que tu peux pas diriger un club en disant à tes supporters, c'est vous les patrons.
Enfin, il nous a dit que le club appartenait désormais à ses enfants et à ses petits-enfants.
Oui, oui. Ok, ben on verra. Mais tu peux pas diriger un club comme ça. C'est pas possible. Parce qu'à la prochaine secousse, qu'est-ce qui va se passer?
Je suis complètement en désaccord. C'est le seul coup de génie de McCourt, c'est de dire le club appartient à ses supporters, à mes petits-enfants, les enfants si vous voulez. Mais le club appartient aux supporters. Mais bien sûr que le club de l'OM appartient à ses supporters.
Et il l'a pas dit comme ça. Hein.
Bah, il l'a subodoré. Il a dit vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'Héro s'en aille, il s'en va. Vous voulez que tel responsable s'en aille, il s'en va.
Je suis là pour poser des questions.
Il parlait des supporters.
Non, vous, c'est pas vous, c'est monsieur. Il a monsieur McCourt qui a dit aux supporters. Vous voulez. Je vous parlerai pas comme ça, Christian, vous le savez.
Mais quand même,
monsieur McCourt a dit aux supporters, vous voulez quoi? Je vous donne tout. Et il leur a tout donné. Et ça, c'est bien. Il leur a aussi donné Sampaoli. Quand le stade sera plein, ça recréera
des services. Ce qu'il voulait entendre, parce qu'on sait bien que la substantifique moelle de ce monsieur, c'est d'être un Américain avec la notion de la franchise, de l'appartenance du club à celui qui l'a acheté et de la cession possible à un autre et pourquoi pas dans une autre ville.
Ce qui est génial avec Gilles, c'est que les supporters font n'importe quoi, ils trouvent ça génial, on leur donne ce qu'ils veulent. L'institution rugby protège les mensonges, ils trouvent ça génial. C'est toujours le moyen de trouver génial ce qui est complètement baroque.
Mais c'est le pas de côté parfois nécessaire pour relancer les débats.
Prendre du recul.
Et de la hauteur.
La vente de l'Olympique de Marseille, Émile Leclerc, les amateurs de foot, c'est important, ça. Ce sont les connaisseurs estiment que McCourt doit vendre le club. Mais attention, les amateurs, pas forcément les supporters, hein, dans le sondage.
C'est ça, les amateurs de football au sens large, donc ils peuvent être supporters d'autres clubs. Alors, c'est une courte majorité, hein, 52%, et 48% pensent qu'il ne doit pas encore le vendre. On a vu que les rumeurs étaient persistantes. À force de mauvais résultats sur le long terme, bien les amateurs de football se disent que Marseille n'est pas forcément entre de très bonnes mains et qu'un autre propriétaire pourrait refaire de ce club celui qu'il a été par le passé.
Mais ça, c'est le son de cloche qu'on entend de la part des amateurs de foot, c'est le son de cloche qu'on entend de la part des supporters de l'Olympique de Marseille, globalement. Deux autres questions, l'arrivée de Sampaoli, large majorité, c'est un très bon choix.
Elle est, Elle est applaudie même, on peut dire. 70% des amateurs de football se disent que c'est un bon choix pour l'OM. Alors, on connaît assez peu l'entraîneur. On sait que c'est un disciple de Bielsa, qu'il est plutôt sanguin, qu'il a eu de très bons résultats avec le Chili. Maintenant, charge à lui de prouver. Il commence à le faire déjà sur ses premiers matchs. On verra ce que ça donne d'ici la fin de la saison. Et peut-être que c'est l'entraîneur qu'il faut à ce club.
Et écoutez bien, messieurs, il y a un résultat qui va vous faire réagir. Pour les amateurs de foot, et à une large majorité, ceci pense que le club doit vendre, doit se séparer de ses stars.
Oui, c'est un peu l'heure du renouveau. C'est vrai que ça fait plusieurs années que le club traîne ses gros salaires qui plombent sa masse salariale et qui l'empêchent de recruter. Et bien aujourd'hui, les amateurs de football se disent il faut repartir sur un nouveau cycle, il faut vendre ses joueurs et recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. Ils sont 69% à le penser et 29% pensent au contraire qu'il faut conserver ses joueurs et recruter quelques joueurs pour les épauler. Donc il y a vraiment pour les amateurs de football, ce besoin de partir sur un nouveau cycle, de faire du renouveau. Ouais.
Un résultat qui a l'air de vous étonner, messieurs.
Mais en fait, il n'y a pas le choix. Équipe, on fait pas que des jeunes ou que des vieux. Ça n'existe pas. Si ça marche pas, ça, il faut un amalgame entre des anciens, des gens expérimentés, des jeunes. Enfin voilà.
Quand on parle des stars,
mais surtout il n'y a pas le choix.
Non, mais bien sûr, le problème c'est que Payet,
qui va acheter Payet, Mandanda, Trottmann, évidemment. Qui va vouloir acheter ces joueurs-là? Personne.
Mais écoutez, les Français, ils veulent s'en séparer.
Oui, mais qu'ils les achètent.
Vous pouvez rompre leur contrat et leur rendre les années de contrat.
Donc la saison prochaine, on redémarre avec la même équipe.
Alors. Non, c'est des contrats financiers, mais il y a aussi des clauses qui leur assurent des reconversions au sein du club.
Ils ont quand même donné, promis, là c'est écrit noir sur blanc, le poste de directeur sportif à Dimitri Payet. Hein. Mais c'est pas rien quand même.
Alors c'est pas rien, directeur sportif.
Là on n'est pas en train de parler d'un poste d'ambassadeur. Hein.
Il a un réseau.
C'est pas Basile Boli. Hein.
Il a son réseau, il a ses.
Ouais,
il s'y connaît.
Dans trois ans, Dimitri Payet est directeur sportif de l'OM s'il le souhaite.
Donc, hein. Je vous pose la question, je ne fais que poser des questions, parce que depuis le début de l'émission avec l'Olympique de Marseille,
On a froissé le patron.
Il faut redémarrer avec le même effectif, on est d'accord.
Vous ne pouvez pas tout.
Bien sûr qu'il va falloir tout bouleverser.
Il y a plein de joueurs en fin de contrat. Du passé, faisant table rase en matière de transfert, de respect des contrats. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez peut-être dire oui, une ou deux stars vieillissantes, on voit.
Non, si mais prenons-les cas par cas, Mandanda.
Mais vous ne pouvez pas vous séparer de Mandanda. Mandanda, c'est l'OM. Mais vous voulez mettre qui à la place?
Un gardien.
Non, en revanche, je pense qu'il faut commencer à envisager.
Prenez le gardien de Reims, par exemple. Est-ce que c'est pas plus l'avenir pour Marseille de prendre un gardien comme Rajkovic que de garder Mandanda au salaire où il est? Je veux dire, il y a un moment, il y aura un après.
Mais il y aura un renouvellement naturel.
Puisque Payet.
Mais Dimitri Payet, ils sont coincés avec son salaire.
Et son contrat?
Bien sûr. Qui va acheter Dimitri Payet? Et Dimitri Payet, il va pas s'asseoir sur son argent.
Moi, je lui proposerais déjà une reconversion déjà immédiate, quoi. Je lui dirais, voilà, on arrête. C'est une souffrance pour toi, peut-être.
Mais il est sous contrat, Dominique.
Je lui dis, est-ce que tu veux pas arrêter ta carrière? Progressivement. Peut-être je te laisse encore une année, comme ça, pour finir.
Il a prolongé, hein, quand même.
Ben oui, mais justement, on lui dit, voilà. Ou alors, est-ce que tu veux pas qu'on te prête en D1 grec?
C'est pas comme ça que ça se passe. On va pas lui poser.
Mais là,
c'est contre-productif.
Dominique, le problème de Dimitri Payet, c'est son salaire principalement, parce que c'est énorme. Mais son niveau, il fait pas une bonne saison. Mais malgré tout, il est titulaire dans cette équipe de manière tout à fait logique, parce que là, il a reperdu un peu de poids. C'est le meilleur technicien de cette équipe.
Il fait pas une bonne saison, mais il est le titulaire logique. Je comprends plus.
Mais on est en train de parler de l'Olympique de Marseille, on parle pas du PSG. Enfin, Dimitri Payet, il a le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille quand même.
Et Florian Thauvin, alors on reconduit là, et pour le coup, ça, on prolonge, on renouvelle son contrat.
Bien sûr. Regardez le but qu'il met là.
Formidable. Je vous pose des questions.
Le maintien, on le prolonge.
Il est encore jeune. Après, ça dépend à quel prix.
Après, c'est pareil, s'il a une offre, lui, ça sera des rares joueurs qui va avoir des offres peut-être.
Mais lui, il est libre. Donc il est libre. Ça rapportera zéro à l'Olympique de Marseille s'il s'en va.
Les amis, on va remercier Émile Leclerc évidemment pour ce sondage très très précis. Oui. Odoxa,
merci à vous.
Pour Winamax. Merci Émile. Je crois qu'on a à peu près tout dit sur l'Olympique
de
Marseille.
Sur la vente quand même, on est passé vite, Christian. Je ne comprends pas que, vu aujourd'hui comment la géographie des actionnaires en Europe, qui est pas un énorme actionnaire puissant qui rachète l'OM. Parce que bon, McCourt, on voit bien qu'il était là pour une opération immobilière, j'ai pas très bien compris ce qu'il est venu faire, mais c'est bizarre qu'il y ait pas
ce qui s'est passé ces derniers mois donne peut-être pas non plus très envie aux investisseurs, parce que tu sais comment ça se passe aujourd'hui.
Est arrivé juste après deux morts au PSG, hein.
Pour avoir un club au sommet, il faut un club qui mette beaucoup d'argent. Et un club qui met beaucoup d'argent, c'est aussi un club qui veut des retours, pas que sur le terrain, qui veut des retours en marketing, en merchandising dans le monde entier, avec une image, avec des ambassadeurs. Si tout ce que Marseille ne supporte
Philippe,
pas.
Si les résultats sont bons.
Tout ce que Marseille ne supporte pas.
Allez, 19h19 minutes, la pub, et puis on parlera de l'élection là, qui s'est déroulée ce midi. Un triomphe pour Noël Le Graët avec la question Noël Le Graët réélu président de la fédération, est-ce la meilleure nouvelle possible aujourd'hui pour le football français? Je vous poserai la question. On fait le match avec Gilles Verdez, Sébastien Tarrago, Dominique Sévrac et Philippe Sansfourche.
On refait le match sur RTL. On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Déjà 19h21 minutes, on refait le match. On n'oublie pas le rugby en fait. Ça ne bouge pas, Jean-Michel Rascol.
Ah non, ça bouge pas, mais c'est très très chaud. Hein. C'est très très chaud pour l'équipe de France qui doit se contenter de défendre. On joue depuis 76 minutes. Les Français ont 4 points d'avance, 20 à 16, mais ils se font pilonner la par Itogé. Et c'est l'Itogé, le deuxième ligne anglais. L'arbitre vérifie. Non. Il y a un joueur français sous Itogé. Il y a Damien Penaud, qui a réussi à s'allonger sous le ballon. Et l'arbitre refuse cet essai. Mais c'est très chaud dans les derniers instants, vous l'avez bien compris, puisque 4 points d'avance, c'est à l'abri d'une pénalité, mais pas d'un essai, qu'il soit transformé ou pas. L'arbitre demande d'ailleurs un arbitrage vidéo pour voir si l'immense deuxième ligne des Saracens a aplati dans l'embut français ou si Damien Penaud a réussi à l'en empêcher.
Ça risque de durer sous tous les angles, on est bien d'accord, Jean-Michel. Donc, une fois que le verdict tombe, vous nous rappelez, évidemment, pour valider ou pas.
Avec plaisir.
Les amis, Noël Le Graët réélu président de la Fédération française de football. C'est la meilleure nouvelle possible de la journée, en tout cas pour le football français. Gilles Verdez,
on dit parfois que sans péril, on triomphe sans gloire.
Je rappelle le score, 73%.
Voilà.
73% pour Le Graët, 25% pour et des poussières pour Thierry. Si on veut être gentil, un petit 2%, on va dire 2% pour, mais c'est pas 2% pour Michel Moulin.
Oui, c'est moins que 2%. Noël Le Graët, voilà, pour moi, c'est l'avenir du football français. 79 ans, c'est l'homme qu'il fallait. Je dirais que nos soucis sont derrière nous. Et moi, je lui ai toujours fait confiance. Je l'ai toujours dit à votre antenne. Mes collègues rient parce qu'ils sont anti-Le Graët. Mais moi, malgré quelques dérapages et phrases inutiles, j'aime cet homme. C'est lui qui fait que le football français est là où il en est aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut considérer que l'âge ne fait pas l'avenir? Mais c'est une politique qui fait l'avenir.
Mais il est en forme. Il a déjà été malade. Aujourd'hui, il est en forme. Il repart pour 4 ans. C'est formidable. Une équipe renouvelée. Moi, je lui dis bravo. Voilà. Je suis enthousiaste comme je l'ai rarement été. Voilà.
Sébastien Tarrago. Ce sera pas possible avec Sébastien Tarrago.
Non mais franchement, son bilan, il est positif globalement.
Ah, voilà.
Il est globalement positif, mais parce qu'il y a aussi la vitrine exceptionnelle qu'est l'équipe de France masculine.
Excuse-moi.
Allez-y, bien sûr.
Et c'est accordé pour Itogé, le deuxième ligne là, anglais. Ce n'était pas Penaud qui l'empêchait d'ailleurs de marquer, mais Teddy Thomas. Et en force, on a bien vu que Itogé avait aplati dans l'embut français. Les Anglais, pour l'instant, repassent devant 21 à 20. Il y a la transformation de l'essai. Et puis surtout, il reste seulement 2 minutes de jeu à Twickenham.
On suit la transformation ou on reste sur le football?
Ça, c'est à vous de juger, puisque c'est Farrell
qui va tenter de
donner un petit peu d'air à son équipe. Il faut dire que les Français, depuis maintenant 10 minutes, étaient en défense. Ils repoussaient les vagues blanches, les assauts du 15 de la Rose. Mais il y a bien un moment où ça allait craquer. C'est Itogé, un petit peu le joueur emblématique de cette équipe d'Angleterre, vice-championne du monde, qui a marqué cet essai. Farrell qui fixe les poteaux. Il n'y a pas de spectateurs dans le virage de Twickenham. Mais il y a ce ballon qu'il faut propulsé, il le fait du pied droit, il va passer entre les poteaux et maintenant 23 à 20 pour l'équipe d'Angleterre. Il reste 3 minutes à Twickenham, mise en jeu pour l'équipe de France.
Si le score en reste là, on risque de reparler peut-être de la bulle.
Noël Le Graët. Donc rapidement, son bilan est globalement positif, notamment à travers la vitrine de l'équipe de France masculine. Vu les alternatives proposées, je pense que c'est pas si mal parce qu'il n'y avait pas grand chose en face et pas de projet très emballant. Après, il faut faire attention quand même, et monsieur Noël Le Graët doit faire attention à ce qui se passe au sein de sa fédération. Il y a le feu dans cette fédération depuis des mois, des conflits qui ne sont pas réglés, une directrice générale qui pose des vrais soucis, une
une
et qui va rester, hein.
Et qui va rester, il l'a déjà annoncé.
Florence Ardouin.
Des soucis en équipe de France féminine, des progrès par rapport au football amateur à effectuer. Voilà, il y a quand même du travail à faire et une petite remise en question. Et est-ce que ce score va amener la présidence actuelle à se remettre en question? Bah, je ne suis pas sûr.
Alors moi, j'entends ce que vous dites, Sébastien. J'entends. Et parfois, effectivement, l'analyse toujours pointue de Gilles est parfois un peu exagérée. Mais néanmoins, le football amateur et une très, très, très grande majorité continue de voter pour Noël Le Graët.
Bien sûr.
Donc, où est le problème? Mais ce n'est pas le triomphe pour moi de Noël Le Graët, c'est surtout la débâcle de ses adversaires.
Alors attends, Dominique, en 2011, son premier mandat, 57% contre 45% à Duchossois. En 2012, puisqu'il avait pris les rênes en cours de route, 83% pour Le Graët. Et en face, il y avait François Ponthieu, Éric Thomas, donc là, ça n'avait pas fait un pli. Et en 2017, 53% contre 41% à Jacques Rousselot.
C'est ce que je... C'est donc, vous allez dans mon sens. À l'époque, il y avait donc du répondant en face. Il y avait une adversité. Il y avait Jacques Rousselot qui avait fait une très belle liste avec Jérémy Sanjac qui aujourd'hui est passé avec Noël Le Graët. Du Chaussois, on aime ou on n'aime pas, mais il y avait du répondant. Là, il y avait rien. Donc en fait, c'est la nature ayant horreur du vide.
C'est facile de dire après qu'il y avait
la nature ayant horreur du vide, il a rempli ce vide. Mais pour moi, je suis content de savoir que la fédération en dans le 21e siècle avec un président qui est sexiste, avec un président qui pense qu'il n'y a pas de racisme dans le football, avec un président qui dit bah ça m'est égal que si les femmes ne s'entendent pas, elles peuvent se tirer les cheveux. La fédération entre dans le 21e siècle avec une fédération où il y a des crises de harcèlement. Il y a des articles du New York Times où on dit qu'il y a du harcèlement moral et parfois sexuel au sein de la fédération. Donc, si c'est ça le sport qu'on veut pour la première fédération du pays, si on veut un président dynamique qui couvre le racisme, qui couvre le sexisme, qui couvre le harcèlement, c'est génial.
Ça va vous interpeller, ça.
C'est une courte
vue. L'humaniste.
Non, mais c'est une courte vue. Il y a eu des dérapages verbaux, je l'ai signalé tout de suite. Donc, il s'est excusé. Il y a eu quelques dérapages. Mais Christian, franchement, vous arpentez, quand il y en a, les matchs de football des terrains amateurs le week-end. Qu'est-ce que crient les gens sur le bord des terrains? Noël Le Graët, Noël Le Graët. Ils veulent Le Graët, le football amateur. Un plébiscite pour Noël Le Graët.
Mais c'est un milieu
73%. Mais vous voulez quoi de plus?
C'est un milieu conservateur. Mais vous, qui donc.
Mais vous pouvez pas aller contre le vote mathématique des gens, je suis désolé.
C'est terminé.
Donc on va poursuivre derrière le rugby, si vous le voulez bien. Je suis désolé, Jean-Michel Rascol, le rugby et la
C'est terminé à Twickenham avec la victoire de l'Angleterre 23-20. Cet essai assassin de Maro Itoje, l'immense deuxième ligne de cette équipe du 15 de la qui a donc scellé cette victoire il y a quelques instants. L'équipe de France a été parfois inspirée, mais elle a douté. Elle a dû se recroqueviller en défense en deuxième période et a donc lâché dans les dernières secondes, 23-20. À la fin, ce sont souvent les Anglais qui gagnent.
Merci Jean-Michel. La publicité, derrière la publicité, Noël Le Graët, toujours avec Sévrac Sanfourche, Verdez, Tarago. À tout de suite.
RTL. On refait le match. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Ensuite, on refait le match. Je vous rappelle le résultat d'Angleterre-France. Victoire des Anglais, 23-20. La France ne réalisera pas le grand chelem. Je vous rappelle le résultat de Marseille. Match de 17h. Marseille a battu Brest 3-1. Je vous rappelle le résultat du match de 13h. Saint-Etienne est allé gagner à Angers par 1-0. Je vous rappelle le match de Ligue 2 de l'après-midi. Auxerre et le PFC ont fait match nul 0-0. Coup d'envoi de la journée de Ligue 2 désormais, non plus à 19h, mais à 20h. Les messages, avant de revenir sur le cas de la réélection de Noël Le Graët, les messages sur le compte @RTLFoot avec Baptiste Durieux.
Et justement, sur cette réélection de Noël Le Graët, évidemment, on ne pouvait pas y échapper. On va parler d'un certain numéro 9 qui jouera à Real Madrid. Message de Guillaume, doublé merveilleux de Karim Benzema et nouveau mandat de Noël Le Graët. J'ai connu meilleure journée, nous dit Guillaume. Message d'Axel, le problème n'est pas Noël Le Graët, c'est l'absence de concurrence le problème. J'aurais aimé un président plus jeune, différent, plus dynamique, mais personne n'est là pour faire de l'ombre à Noël Le Graët. Message de Yohan, on se cache beaucoup derrière les succès de l'équipe de France depuis 2014 et si être un bon président de fédération, c'est simplement mettre Didier Deschamps en sélectionneur. Alors Michel Moulin, aurait pu être élu. Cette fédération implose et explose, c'est ça le problème. Et puis message d'Antoine, qui est plutôt content, c'est bien d'avoir de la continuité, surtout dans cette période qui est difficile avec le virus. Le Graët a fait des erreurs, mais il est légitime, plus que n'importe qui.
Merci, petite erreur tout de même, parce qu'avec Michel Moulin à la présidence, il y aurait eu évidemment, tel qu'il présente les choses, clash par rapport à Benzema, puisqu'il aurait visiblement imposé Benzema en équipe de France, et qu'il aurait joué en tant que président de la fédération.
Proposition crédible,
quel rôle président par rapport à la sélection. Ce
n'est évidemment pas le rôle du président. Alors, il va falloir être solide sur vos appuis.
Je suis déçu qu'il cautionne.
Vous qui êtes profond humaniste, la charge de Dominique Sévrac est quand même violente par rapport à ce qu'on peut reprocher également à Noël Lemaitre.
Je crois que tu es un homme de progrès.
Trop violente pour être honnête.
Je pensais que tu étais un homme de progrès.
Mais je réponds que les erreurs de Noël Le Graët sont réelles. Mais à chaque fois, ce sont des phrases. Les erreurs de Noël Le Graët sont dans le domaine de la communication. Il a fait des erreurs, il les a rectifiées. Dans le domaine de la préservation du foot, dans le domaine de la cohérence, président sélectionneur de l'équipe nationale, qui est quand même le vaisseau amiral. Aucune faille, aucune fissure, jamais. Et on a connu des pays où quand le président ou les instances ne sont pas en phase avec le sélectionneur, ça ne va pas. Il n'y a jamais eu une faille. Donc pour moi, ça c'est la vitrine, c'est le porte-étendard, c'est l'essentiel. Le duo Le Graët-Deschamps, il fonctionne, il nous mène au sommet. Donc il faut que Le Graët reste s'il le peut éternellement.
Aucune fissure, ce sont quand même vos éléments de langage préférés. C'était la même chose en début d'émission avec la fameuse bulle et la politique de la Fédération française de rugby. Aucune faille, aucune fissure.
Et pourquoi ça marche aussi bien dans les deux cas, même si cette défaite-là face à l'Angleterre en rugby, elle est subalterne, on l'oubliera vite.
Gilles, ok, pas de problème. Le duo Le Graët-Deschamps, ça fonctionne très très bien, beaucoup mieux que Le Graët-Blanc.
C'est vrai.
Ok. Quel est l'autre bilan? Quels sont les autres thèmes forts que Noël Le Graët a réussi à imposer dans le football français? Qu'est-ce qu'il a fait?
L'équipe de France féminine est entrée dans les mœurs des Français et on suit avec passion nos femmes sur le terrain.
Ça, c'est pas l'évolution de la société, ça. Ça, c'est Noël Le Graët. Ça n'aurait pas eu lieu avec un autre président. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore?
Mais vous pouvez pas lui reprocher d'être sexiste et en même temps de favoriser le développement du football féminin.
Bien sûr, mais je pense que ça sera arrivé quand même. Mais bon, admettons que ça encore.
Je ne sais pas si ce sera arrivé.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans
Il a su renouveler sa liste, par exemple, et avoir un successeur. Il veut pas de dauphin, mais il y a Marc Keller qui se présente quand même comme un successeur crédible. Il a réuni trois présidents de club. Il a réuni trois présidents de ligue par Île-de-France.
Je te demande son bilan. Quel est son bilan? Qu'est-ce qu'il a fait pour le foot amateur?
Il est visiblement bon, Dominique Sévrac, puisque la large majorité du foot amateur a voté pour lui.
C'est le rejet des autres. Ils l'ont dit, les Twitter.
Non, mais le bilan financier de la fédération, par exemple.
C'est important. Sur le terrain de dimanche, on dit Noël Le Graët, Noël Le Graët. Qu'est-ce que les gens, ils aiment?
Oui, je n'ai pas dû voir les mêmes matchs et je n'ai pas entendu Noël Le Graët président.
C'est une illustration donnée par Gilles Verdez.
Le bilan financier, ils sont globalement bons. Alors là, il y a la crise du coronavirus qui évidemment pose des soucis, mais le bilan financier par exemple, il est bon. Et c'est vrai que toutes ces phrases qui sont extrêmement choquantes, t'as raison Dominique. Oui. En revanche, il faut admettre aussi une chose, c'est que sa directrice générale, c'est donc une femme, donc ça va à l'inverse de propos éventuellement sexistes, c'est-à-dire que c'est elle qui guide le navire de la Fédération française, c'est donc une femme. Et malgré le fait qu'à mon avis elle n'est pas au niveau, il a conservé sa confiance à Corinne Diacre, donc une femme à la tête de l'équipe de France féminine. Donc ça, par exemple, il y a les faits qui vont à l'encontre de ces dérapages verbaux, par exemple.
Philippe Sanfourche.
Il a fait rentrer aussi Hélène Schrupp de Metz dans son équipe. Quand on parle du football féminin, certes l'équipe de France n'a pas remporté sa Coupe du Monde, mais elle a été organisée de manière absolument formidable et à un niveau de professionnalisme et une étendue sur le territoire comme ça n'avait été jamais vu par le passé. Donc ça, ce sont les faits. Le problème, c'est qu'avec Noël Le Graët, on est souvent sur l'écume des choses, on est souvent sur les petites phrases, alors que la réalité, c'est que lorsque son opposant Frédéric Thirier demande un énième prêt, 40 millions d'euros, refaire un PGE pour verser aux amateurs, Noël Le Graët dit simplement, moi j'ai pas envie d'endetter la fédération, mais par contre on va s'engager sur tout ce qu'on a entrepris et tout ce qui a été promis sera tenu. Et au final on s'aperçoit que comment il est élu Noël Le Graët par 218 votants, il y a tous les présidents de ligue, les 22, tous les présidents de district, les 91, il y a les représentants des arbitres, des médecins, des entraîneurs, des joueurs. Donc ça veut dire quoi? Ces gens-là, ils ont tous été achetés?
Je sais pas, mais moi
non, simplement,
là.
de manière pragmatique.
J'ai raison sur quelque chose. Carl-Olive était invité par Christian pour On refait le match, et Carl-Olive nous a dit le monde amateur est en train de crever la gueule ouverte. C'est sa phrase exacte. Donc moi, je veux bien que les présidents de district allons faire des reportages au sein du monde amateur, parce que si c'est faut être président de district,
Noël Le Graët n'est pas encore ministre de la santé, Dominique. Excusez-moi, c'est pas lui qui est en train de.
Il parlait pas que de Covid.
Principalement. Dominique, il a raison quand même sur une chose très importante. C'est le problème de la violence qui existe dans le management de la Fédération française. Ça, c'est un vrai problème. Et Noël Le Graët, il peut plus mettre le couvert dessus.
Et Sébastien, on peut aimer les femmes et être sexiste. Hein. Je connais plein d'affaires qui éclatent en ce moment sur des journalistes célèbres qui peuvent être entourés de femmes et être sexistes. C'est pas parce que tu mets des femmes à des postes.
Il l'a mise directrice générale.
C'est pas parce que tu mets des femmes à des postes de responsabilité.
19h36. On va reparler football derrière la publicité après les affaires institutionnelles. constitutionnelle de la Fédération française de football, la réélection de Noël Le Graët. On a l'impression que Ronaldo et Messi là, sont au crépuscule de leur carrière. Et que mais vous avez de drôles de gimmicks et de grimaces et de gestes.
Vous
soir,
dites que Lionel Messi.
On va se poser la question et vous allez me donner votre.
Ah mais non, mais vous dites qu'ils sont au crépuscule.
On a l'impression. Non, j'ai dit on a l'impression. En revanche, on a le sentiment tout de même que.
On n'a pas entendu, on a l'impression.
Et que Haaland, eux, sont au firmament ou presque d'un début de carrière.
C'est pelé, quoi.
Pourquoi pas? On vous posera la question.
Bravo chef, bravo chef. Vous avez raison. Ça c'est une question. Très bonne question, chef.
La thématique. Mais on va nous reprocher, vous savez, de comparer ces quatre joueurs avec des générations différentes.
On va être là pour.
Merci.
Mais arrêtez de regarder les réseaux.
Les réseaux ? Les réseaux sociaux, formidables.
Ah bon ?
Et alors ?
Moi, je trouve pas.
À partir de 21h30, écoutez chaque samedi soir désormais, il y a une séquence des réseaux sociaux avec le décryptage et tout ce qu'il faut. Il y a le pire. On décrypte et il y a le meilleur sur les réseaux sociaux.
J'ai vu ça.
À tout de suite.
Enfin, j'ai écouté surtout.
RTL, on refait le.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Une vingtaine de minutes d'on fait le match avant le RTL Foot, 20h23h avec toute l'équipe de Eric Silvestro. Il y aura Xavier Demergue, bien sûr, Giovanni Castaldi, Raymond Abou et Quentin Vasselin. Je vous rappelle les deux gros résultats de cette fin de journée. Rugby, victoire de l'Angleterre face à la France 23-20 et victoire de Marseille sur Brest, 3-1. Ronaldo Messi aux oubliettes, ils ne disputeront pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé, le Norvégien Erling Haaland, sont les futurs talents, semble-t-il. C'est ce qu'on entend partout, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, quand on regarde leurs matchs, bien évidemment. Est-ce qu'on est certain, c'est ma question, est-ce qu'on est certain que la relève est ainsi assurée?
Mais on n'est jamais certain.
Sébastien Tarragon.
Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a tout un tas de joueurs qui, à 22, 23 ans, étaient des génies absolus et qui n'ont pas confirmé. Parce que là, attendez, on compare avec Messi et Ronaldo. Hein. Donc, par exemple, je vous parle de Ronaldinho, qui était un génie absolu. Eh ben, il a gagné un ballon d'or, c'était extraordinaire. Et puis, à un moment, ça s'est arrêté. Il n'a pas été capable de faire la carrière de Messi et de Ronaldo. Donc là, on est en train de parler de joueurs qui ont été au top niveau mondial pendant 15 ans. Donc, est-ce que Erling Haaland et Kylian Mbappé seront capables de faire ça pendant 15 ans? Là, franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ne sont pas le futur, ils sont le présent.
Ronaldinho, qui n'avait pas la même hygiène de vie que les joueurs qu'on est en train de citer actuellement. Gilles Verdez.
Sébastien a dit, on parle de deux joueurs qui ont été, et oui, ils ont été au firmament. Mais maintenant c'est fini, la relève elle est là, qu'on le veuille ou non, et en foot ça va très vite. Et même déjà Mbappé, l'icône absolue, mon icône, il est déjà un peu dépassé par Haaland, et les clubs espagnols aujourd'hui ils disent pourquoi pas, mais ça va très très vite aujourd'hui, ça va très très
mais
vite,
si, c'est pas
il
fini,
va revenir, mais bah, c'est pas fini au sens, si
mais
vous voulez,
il est encore très fort,
mais pour le ballon, déjà, non mais Haaland il n'existait pas il y a 6 mois, on est d'accord, Mbappé était beaucoup,
ça fait un an et demi Gilles,
bon Mbappé était largement supérieur, aujourd'hui les clubs espagnols dans leur recrutement, ne serait-ce qu'aujourd'hui, ils se disent, est-ce qu'Haaland n'est pas meilleur qu'Mbappé? Moi, je ne crois pas.
Ça
va très très vite. Et le duo Mbappé-Haaland a supplanté le duo Messi-Ronaldo.
Dominique Sévrac.
Alors, je m'oppose à la double idée que Messi et Cristiano Ronaldo sont en déclin. C'est leurs clubs qui sont en déclin. C'est Barcelone et la Juventus qui sont dans un mauvais cycle. C'est pas les ces deux joueurs-là, première chose. Et je m'oppose au fait que la relève est là, puisque la relève, elle a déjà pris le pouvoir. C'est pas une relève. Il y en a un qui est champion du monde et l'autre qui est contacté par le Real Madrid. Donc, c'est déjà le présent. Le pouvoir est pris. Ils sont là tous les jours. Mbappé, il peuple le décor français et international depuis au moins 3 ans. Erling Haaland, c'est depuis au moins 1 an et demi, comme le dit Sébastien. Pourquoi aujourd'hui les clubs espagnols préfèrent Haaland à Mbappé? Parce que, un, c'est moins cher en transfert, deux, c'est moins cher en salaire.
Parce qu'il est un peu plus jeune, aujourd'hui c'est la jeunesse.
C'est un buteur. Mbappé, c'est autre chose qu'un buteur, c'est plus qu'un buteur. Les comparer. Bon, je sais bien qu'en sport, on aime bien Federer, Nadal.
Ce n'est pas ma question.
Ils sont incomparables.
Mais ce n'est pas ma question.
Il est encore à Monaco.
Mais Dominique est habile pour ne pas répondre à vos questions.
C'est Mbappé à Monaco. On va voir quand Haaland va signer au Real ou dans un grand club. On va voir comment il va être. On va voir quand il aura la pression de toute une équipe sur lui.
Mais il ne s'agit pas de les comparer pour l'instant. Attention, il s'agit de savoir si la relève par rapport aux états de service de Messi et de Ronaldo, si la relève est assurée. Philippe Sanfourche.
On ne peut pas, je suis d'accord avec Sébastien, on ne peut pas s'engager là-dessus puisqu'on est en train de parler de deux joueurs qui, sur la durée, sont probablement les meilleurs joueurs de tous les temps. C'est-à-dire qu'après, on peut dire effectivement, peut-être que Pelé c'était au-dessus, peut-être que Maradona c'était au-dessus, peut-être que Platini. Ça, c'est les affects, les histoires, c'est des questions de génération. Après, ce qui est factuel, c'est que la stabilité à très très haut niveau avec un nombre de buts minimal par an dans des compétitions majeures face à des clubs immenses. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont mis la barre à un niveau qui n'avait jamais été atteint. Donc ça, on ne sait pas si ces deux garçons seront en capacité de le faire. Mais là où je modère un petit peu les propos de Dominique, c'est que je pense que même si leurs clubs sont effectivement en déclin, il y a quelques années, Cristiano Ronaldo, il aurait trouvé le moyen de mettre le but qu'aurait sauvé la Juve contre Porto. Comme Lionel Messi, qui a été merveilleux sur ce but face au PSG, sur les deux rencontres, il aurait trouvé le moyen d'être un peu plus influent que ce qu'il n'a été sur les deux rencontres. Donc c'est normal. Ils sont aussi impactés par l'âge qu'ils ont. C'est
33 logique. Ans Messi, ouais,
mais ils sont très forts, mais ils sont quand même déjà, on est dans la logique du déclin.
T'as remarqué que le grand Messi, il y a 7 ans, il n'était pas excellent avec l'Argentine. Au bout d'un moment, même les meilleurs joueurs du monde dépendent de leur équipe.
Sauf que Philippe, il est en train de nous tracer la place que laisseront dans l'histoire les joueurs. Mais c'est pas le problème. Bien sûr que dans l'histoire du football, très probablement, Messi et Ronaldo, sauf coup de théâtre exceptionnel, laisseront une plus grande empreinte que Mbappé, Haaland. Peut-être, je vous rejoins. Mais aujourd'hui, qui sont les meilleurs? C'est ça le truc. Aujourd'hui, c'est plus Messi et Ronaldo les meilleurs. Les meilleurs du monde, ceux qui auront le ballon d'or, c'est Mbappé, Haaland ou Lewandowski.
Si vous deviez donner un ballon d'or au 13 mars, là, vous le donnez à qui?
Tout de suite, là, comme ça, je le donnerai à Haaland avec beaucoup de regrets parce que j'aurais aimé le conférer à Mbappé. Mais c'est ça le truc.
C'est tôt les quand deux même, jeunes. 13 mars.
Lewandowski,
Gilles.
Dans 2 mois, on sort. J'ai dit un des du jour, car volontairement j'avais décidé de ne pas trop évoquer le match retour PSG Barcelone. Voilà, la remontada, on a eu peur, ils ont eu peur, etc., etc. Mais il y a un truc en voyant Dominique Sévrac et en voyant Gilles Verdez notamment, c'est les notes. Vous vous rappelez du petit débat que nous avons eu il y a 15 jours où vous aviez donné dans Le Parisien 10 à Mbappé après ses 3 buts marqués à Barcelone. Et cette fois-ci, vous avez fait marche arrière. Concernant un joueur qui aurait mérité peut-être un 10 sur 10.
Je suis d'accord avec vous.
Navas.
Je suis d'accord avec vous. On lui a mis 9. Et c'est pas normal. On aurait dû lui mettre 10.
C'était très bien 9.
Non, mais c'était moi je suis d'accord avec Christian. Il méritait 10. Non. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher?
Ah, donc c'est un but.
De pas avoir raté le but.
C'est un but. Ce but-là, c'est un but venu d'ailleurs.
Ah, bah oui, mais il n'a pas fait la rate.
Il a encaissé un but et il a eu un jeu au pied moyen, voire mauvais.
Faut bien qu'il ait un défaut.
Et, bah oui. Non mais attendez, on parle de 10. C'est la perfection, 10.
Oui, mais c'est un humain. Sébastien n'était pas là quand on avait débattu il y a 2 semaines sur le 10 donné par Le Parisien. Non, on peut...
Ouais, je vous avais écouté.
L'équipe avait donné 9, effectivement. Moi, Mathieu Russe, c'était dire 10, c'est quand vraiment on sort le match que Mbappé a sorti, plus, à la clé, un titre. Titre de champion, une coupe, etc. Un titre. Navas, c'est la même chose. Il prend un but, effectivement.
Ah oui.
Mais je veux dire, il fait son match.
Mettez en avant l'incohérence de Dominique. Vous voyez, il le reconnaît. Non, c'est quand même la grande élégance de Dominique.
C'est bien.
Christian, je suis pas d'accord.
Mais
9,
c'est bien.
Vous avez dit, Navas, il fait son match. Il fait son match. On ne met pas 10 pour quelqu'un qui fait son match.
Vous jouez sur les mots. Il fait son grand match. Il sauve le Paris Saint-Germain. Voilà. D'une catastrophe. Ça vous va comme ça?
Une catastrophe. Il y a quand même de la marge.
Si on est
en par rapport au... Non, mais un triplé à Barcelone et 8 arrêts décisifs.
9
arrêts décisifs, ce n'est pas la même chose.
Sans Navas, il y a 3-0 à la mi-temps.
Mais la perfection, c'est qu'il arrête ce but inarrêtable. Voilà. Il ne fait pas l'arrêt qui vaut 10.
Mais c'est pas ça. Mais 10, c'est pas. Il y a pas que. C'est ce qu'on disait il y a 3 semaines pour Mbappé. Il n'y a pas que la note de la perfection, il y a la note émotionnelle. Un match comme ça, en Ligue des Champions, à ce moment-là de la saison, avec le PSG qui est fragile, avec son passé qui remonte. C'est ça, une note artistique et émotionnelle.
Ah, mais mettez deux notes. C'est pas, alors,
est-ce qu'il y a
une note
est-ce que son arrêt sur Dest. C'est exactement ce qu'il fallait faire, est-ce que la main est bien positionnée. On n'est pas pour décortiquer. On n'est pas la VAR, nous. Nous, il y a une note un peu humaine. Et humainement, il méritait un 10. Je
suis pas d'accord.
Est-ce que vous n'êtes pas humain, Gilles?
Non, c'est très bien.
Voilà, ça m'est venu subitement. J'aurais voulu parler de Lyon. Je voulais vous poser la question pour savoir si, après le match nul hier soir à Reims, Lyon n'était pas un club un peu surcoté. Cette saison, une équipe surcotée. Cette saison, très rapidement.
Mais surcotée par qui?
Par rapport...
Elle est à son niveau. Elle va moins bien depuis début janvier. Voilà, ça va être... On pense que le titre de champion, ça va quand même être difficile d'aller l'accrocher. Ça demeure une bonne équipe du championnat de France.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand on reproche toujours au Paris Saint-Germain d'être champion, de dominer tout le temps, les points, quand t'es Lyon, quand t'es Monaco, quand t'es une autre équipe, tu les prends face à des équipes comme Reims.
Il y a Lyon-PSG la semaine prochaine, on va attendre.
Bien sûr. parce que Lyon nous a habitués à ce genre de ouais. match un petit peu en demi-teinte et être capable de renverser. Sur les années qui viennent de s'écouler, c'est quand même très souvent Lyon qui, dans les matchs où on les attendait face au PSG, ont réussi à donner une
bah Lyon a un avantage, c'est que quand il y a le PSG, Oussem Aouar joue au football, par exemple. Enfin, et donc d'un coup, ça change le visage de cette équipe.
C'est surcoté dans le sens où ils ne sont pas capables de faire un match plein. Ils font des belles mi-temps, des mi-temps moins belles. Il faut changer trois joueurs à la mi-temps pour que ça aille mieux. C'est quand même compliqué d'être qualifié d'équipe linéairement appréciée à son top, alors que en fait, c'est un tissu d'irrégularité, Lyon, excusez-moi.
Et moi, il y a un joueur qui ne fait pas toujours ses matchs, mais qui se bat vraiment, à qui on a reproché parfois une mentalité assez approximative, c'est Memphis Depay. Moi, je trouve qu'il cette saison, alors on parlait de Lagnac, de la volonté, le côté psychologique à Marseille de vouloir se battre. Je trouve que Depay, dans l'attitude en tous les cas, n'est pas le Depay qu'on avait déjà vu la saison précédente, c'est un peu boudeur.
Profitez-en, dans 4 mois, il est à Barcelone.
Il y a beaucoup de choses à prouver, il est en fin de contrat, il va aller chercher un gros club au mois de juin.
Oui, mais on peut mettre ça à son crédit,
malgré tout. Bien sûr, bien sûr. Et au lieu de tomber dans un excès d'individualisme, ce qui aurait pu être le cas, il se sublime à travers le collectif, c'est magnifique, c'est ce qu'on aime dans le foot.
Les tirs au but, après la publicité, des questions d'actualité qui ne vous ont pas été soumise et vous entendez le coup de sifflet, évidemment. Ouais. Question sur la Ligue 2, mais j'ai eu du mal à trouver la bonne question. Ce sera une question d'actualité. Voilà. Vous êtes incapable de me donner le meilleur buteur de la Ligue 2, vous êtes incapable de me donner celui qui transmet des passes décisives, vous êtes incapable de me donner le leader du championnat de Ligue 2. Donc là, il y a une question d'actualité.
Comment s'appelle le nouvel actionnaire de Châteauroux
Mais ça concernera Châteauroux.
Ah.
À tout de suite.
Ah, il a du nez.
RTL, on refait le... RTL, on refait le match. Christian Olivier.
Les tirs au but avec Gilles Verdez, Sébastien Tarrago, Dominique Sévrac, Philippe Sanfourche. C'est une exclusivité en fait le match. C'est une séquence, vous le savez, où dans ce studio, les faibles sont éliminés au fur et à mesure. Je reprends à mon compte le bon slogan utilisé par Gilles Verdez.
Il ne restera pas beaucoup de monde à la fin.
Absolument. La Ligue 2, il y a d'autres slogans. La Ligue 2, il n'y a rien de mieux. La Ligue 2, avec la Ligue 2, on est heureux. Avec la Ligue 2, il y a du jeu. Enfin, jusqu'à la fin de la saison, malgré.
Encore le grand match du jour.
Oui, 0-0, mais il y a des matchs fermés parfois sans but qui sont très intéressants.
Avec des gardiens qui n'encaissent aucun but et qui méritent 10.
Alors, la Berrichonne, Châteauroux, est lanterne rouge, n'est-ce pas?
Oui.
Elle a un nouveau président.
C'est ce qu'on nous a dit.
On est d'accord. Avec un nouvel actionnaire, un prince d'Arabie Saoudite. Alors, c'est une question vraiment d'actualité, simplement. Oui, vous voulez.
Non, j'écoute, voilà, je suis impatient.
Donc, c'est simplement une question d'actualité. Quel est le nouveau directeur général nommé par Michel Denisot?
Trottignon.
Oui, mais.
Excusez-moi. J'ai été enthousiaste.
Ça, c'est la quintessence de la faiblesse. On n'est pas capable d'attendre le coup de sifflet. Faute technique. Ça mérite presque un carton rouge, chef.
Vous savez quoi? Je réponds plus aux autres questions.
Alors, je vais en faire. Ça, c'était une question d'actualité. C'était
Patrick Trottignon.
Patrick Trottignon, absolument. Qui sera donc le directeur général et Marco Simone, l'entraîneur.
Oui, absolument.
Est-ce que c'est un projet crédible ou pas?
Alors là,
je vais beaucoup plus prudent.
C'est compliqué. J'ai un peu de mal à y croire. Ça a marché dans d'autres clubs, mais je ne sais pas si c'est adapté à Châteauroux. Voilà, j'aimerais y croire parce que j'aime bien Michel Denisot. Je suis pas sûr que ce soit adapté aux particularismes locaux de Châteauroux. J'ai un gros doute, je vous l'annonce. D'autant que s'ils descendent, la reconstruction va prendre du temps.
Je crois que c'est un actionnaire qui est déjà impliqué dans le football.
Oui, bien sûr, qui a plein d'autres clubs et qui réussit bien dans les autres clubs. Il faut le reconnaître.
Avec des clubs de stature moyenne, sauf Sheffield qui est passé.
Embêtant, Christian, c'est qu'a priori, on ne leur souhaite pas, mais Châteauroux va descendre, quitter la Ligue 2. Donc le projet va repartir de zéro dans une division où il est vraiment très difficile d'avoir une espèce de visibilité. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on reverra Châteauroux, parce que si le projet c'est de remonter en Ligue 2, c'est un peu limité.
Après, souvent la descente en national elle est terrible parce que les finances ne sont plus les mêmes, mais quand il y a un actionnaire fort qui tient et qui a un projet, tu peux te dire que justement tout va être mis en œuvre pour remonter rapidement et que tu peux justement reconstruire sur des bases plus solides.
Et avec un président qui pour le coup connaît le football, qui a ses réseaux, qui saura éviter les choses trappes.
Ils veulent aller où en fait? Ils veulent juste
être ils veulent faire de l'argent, Dominique. Vous avez bien compris quand même que le projet n'est pas sportif purement et simplement. C'est une tentacule, ce sont des gens qui ont des clubs partout et qui veulent faire de l'argent, c'est le foot d'aujourd'hui.
Si vous aimez ça, tant mieux.
La Coupe de France. La Coupe de France. La Coupe de France. La Coupe de France sur France Télévisions avec le match Paris Saint-Germain-Lille qui est passé de 14h à 16h45. Désormais, il se jouera à partir de 17h45. Ce sera le 17 mars prochain. Mercredi, c'est ça. Avec ces changements d'horaire. Le service public se met-il au service du public avec ses horaires fantaisistes ?
Ridicule, Christian.
Dominique Sévrac.
Ridicule, tout ça parce qu'il ne fallait pas déplacer un programme. On se moque des gens. Ils ont la chance d'avoir le premier du championnat contre le deuxième avant cette journée de championnat qui a commencé hier avec Reims-Lyon. Ils ont la chance d'avoir les deux meilleurs clubs peut-être de France. Et ils le programment à 14h parce qu'il ne fallait pas déplacer je ne sais pas quel programme.
Ce sera 17h45 désormais.
À la fin. Mais c'est honteux. Où est le respect du public ? Où est le respect des gens ? Où est le respect de...
Peut-être qu'ils pourraient te répondre. Où est le respect de notre public qui regarde ces émissions?
Non, à 14h,
eh
c'est Rex. C'est la série Rex.
Sébastien. Mais quand ils achètent les droits, on leur dit pas forcément qu'ils vont devoir le mettre à 17h45. Par exemple.
La problématique, c'est que
tu achètes un produit et tu achètes ce que ça représente. Tu t'adaptes aussi à ce qui se passe par rapport à la crise sanitaire.
Le problème, c'est que ce match ne peut pas se jouer à 21h car il y a.
Frontal avec la Ligue des Champions.
Mais à 19h, il fallait faire sauter le 19-20 et plus belle la vie. Et vous aviez quand même un jeu.
Eux, ils achètent. Attendez, non, mais je vais me faire l'avocat du diable, mais eux, ils achètent un produit, comme vous dites. Ils l'achètent cher. A priori, c'était pour le mettre à 21h. Quand ils l'achètent, ils se disent on va pouvoir le mettre à 21h si on a le PSG.
Ils peuvent pas.
C'est pas de leur faute.
Et donc 14h.
Mais non, mais eux, ils peuvent pas. Ils ont le droit de. Ils achètent quelque chose et en plus, on va leur faire la morale.
Soit on a la Coupe de France et on la respecte. Soit on la laisse à une autre chaîne, parce que là c'est un monument en péril et là ils vont l'achever en mettant des trucs en semaine à 14h, 16h, 17h.
Mais c'est pas bon en semaine.
Mais arrêtez, non mais il faut. Et le calendrier, non mais. Un diffuseur fort, il va dire aux instances vous vous foutez de nous, on est en train d'essayer de sauver la coupe et vous l'achevez complètement. Donc on trouve des solutions.
La fédération est un peu responsable dans cette histoire parce qu'ils ont ouvert une brèche avec cette histoire de Fort Boyard déjà sur la finale de Coupe de France à la fin de la saison passée, où ils ont accepté que le match
se joue le vendredi.
La finale se joue le vendredi. Donc à partir du moment où vous ouvrez les portes comme ça, ça crée des précédents. Et ensuite, moi j'ai envie de rapporter ça aussi à tout ce qu'on a vécu, là, tous les débats qu'on a fait pendant des semaines et des semaines sur la crise Media Pro. À un moment donné, c'est le produit qui est au centre des choses. C'est-à-dire que si on veut la Coupe de France, là je suis d'accord avec Gilles, eh bien on accepte qu'il puisse y avoir des déprogrammations et on prend conscience du fait que quand on a une affiche comme PSG Lille, c'est pas décent de la proposer à 14h un mercredi.
Ce sera 17h45, je ne sais pas.
Oui, mais dans un premier temps, s'il n'y avait pas eu une fronde générale, c'était 14h.
Donc si c'était Brest-Châteauroux, là par contre, c'était moins grave.
Mais si, c'est pareil.
Si, c'était en milieu. Mais c'était.
Mais t'as une vitrine là, t'as une vitrine,
on arrête
Sébastien.
Pas de dire que les gens n'ont pas accès.
Mais leur vitrine, ils ne peuvent pas la mettre à 21h.
Mais tu changes le jour. Pourquoi impossible, parce que le calendrier est serré. Je vous réponds l'histoire de la Coupe de France et vous me sortez un vague calendrier.
Mais là non, c'est pas la Coupe de France.
Gilles, France Télévisions est victime et pas coupable. C'est victime. Victime de la folie du foot.
Mais à 19h, à 17h45, vous le mettez avant le couvre-feu. Mettez-le à 19h, c'est un bon prime time.
Mais c'est déjà pas mal d'être arrivé à 17h45. On était à 14h.
C'est un horaire hybride de 17h45. Ça correspond
à rien. Là, pour le coup,
tu démarres ton programme à 19h, tu fais sauter le 19-20 et plus belle la vie, et tu as une programmation formidable.
Mais bon, voilà. Je suis d'accord.
Bon, j'aurais voulu vous poser une question sur le streaming également, une question sur la Juventus Turin. Agnelli qui veut faire des abonnements pour le dernier quart d'heure. Vous vous rendez compte?
Mais le foot que vous aimez, hein.
Vous n'avez pas suivi ça, je
sais qu'il a 4 enfants, monsieur Agnelli, dont un trouve que le football est trop long.
Allez, on arrête là, me dit Damien à la réalisation. Je vous remercie, Dominique Sévrac. C'était un plaisir. Philippe Sanfour, c'était un plaisir.
Sébastien
Tarrio, idem. Et Bernays,
aussi
également. On est une grande famille,
n'est-ce pas? Votre thème était excellent.
Merci Damien, merci Baptiste pour les réseaux sociaux. Et surtout, merci à vous tous. Mais restez avec nous. 20h-23h avec toute l'équipe d'RTL Foot. Du foot. Et beaucoup de foot, bien évidemment. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.
RTL.
Passez une bonne soirée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.